Papa, c'est vrai qu'on utilisait les essuie-glaces d'été à cause des insectes. Mais tu les as connus, toi, les insectes. Et tu crois que j'aurai la chance d'en voir moi aussi? Papa, on doit faire quoi pour qu'ils reviennent? Et comment on fait exactement? Ça met combien de temps pour fonctionner? Et si mes compagnons m'aident, ça ira plus vite. Papa, on pourrait faire un endroit juste pour eux, un endroit trop beau. Je crois qu'un jour il y en aura tellement qu'on ne saura plus où regarder.
Oui, j'espère qu'un jour il y en aura tellement qu'on ne sera plus où regarder. Et grâce à vous aussi un petit peu, parce que ça fait maintenant 6 mois qu'on est ensemble. Ça fait 6 mois que je vous propose des actions dynamiser votre jardin, repeupler votre jardin. Parce qu'aujourd'hui, la biodiversité n'a plus besoin, ne suffit plus qu'on la sauve. Il faut vraiment qu'on la recrée. Et pour ça, Allo Frelon a lancé pour ses 20 ans l'émission Allo Frelon Mission Repeuplement avec une page Facebook, une chaîne YouTube. Et on commence à voir aussi nos premières conférences qui vont arriver là pour le mois d'octobre à Rignac, par exemple, où on va présenter à une cinquantaine de jardiniers le principe Allo Frelon Mission Repeuplement pour dynamiser son jardin potager, créer de la vie et éviter les invasifs au maximum par la création de biodiversité. Zéro pesticide, zéro engrais chimique, uniquement de la vie pour un jardin beaucoup plus puissant, beaucoup plus résilient. La dernière fois, nous avons parlé d'un habitat oublié, il y a 15 jours. Je vous ai parlé du tas de sable, de la micro-savane, comme je vous appelais ça. Donc c'est un sol nu, c'est une terre chaude, c'est des flaques asséchées. Ce sont des petits espaces qu'on se considère très souvent comme vides, mais en fait, c'est plein de vie, ça déborde de vie. J'ai très souvent des appels sur des abeilles de sable, notamment la mairie de Combes-la-Grandville, qui a une colonie d'andrennes dans le sol de l'école, dans un talus de l'école. Et chaque année, maintenant, ils mettent une petite rubalise. Attention, abeilles. Et les enfants observent, il n'y a aucun danger, ce sont des abeilles extrêmement spécifiques qui ne sont pas du tout agressives et qui ne risquent pas de piquer. Donc, ces habitats, ces paysages-là, existaient bien avant l'homme, quand les herbivores venaient manger sur une prairie, ils rasaient tout ça, et derrière, la vie revenait, les fourmis amenaient les graines pour faire repousser de nouvelles espèces. Il y avait aussi les guêpes fouisseuses, il y avait les abeilles des sables, il y avait les guêpes des sables qui étaient là, il y avait les carabes, il y avait les lézards, tout ça vivait en fait bien avant l'homme, et l'homme a décidé lui de tout bétonner. Malheureusement, c'est pour ça que aujourd'hui on vous propose cette petite émission sur le mois de mai. On va développer ça juste après la petite pause musicale. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with buzz and the sky with no
desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Bon, alors, vous avez fait quoi? Vous avez décidé d'agir? Depuis la dernière émission, on a parlé du coup de cette micro-savane. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé. Est-ce que vous avez peut-être fait modifier un petit peu les aspects de votre jardin? Vous avez peut-être un peu moins de pelouse sur un endroit très ensoleillé? Un peu moins de paillage? Quelques pelletées de sable par-ci, par-là? Une petite bordure en bois, en argile, en brique que vous avez mis en plein soleil pour délimiter cette zone sablonneuse du reste du jardin. Tout ça pour attirer ces espèces très, très thermophiles, celles qui ont besoin d'énormément de chaleur pour coloniser ce nouvel espace, parce qu'on a aussi besoin de ces bestioles-là. Est-ce que, voilà, justement, c'est le but de l'émission là, du mois de juin, c'est de créer cette micro-savane. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez observé que depuis l'émission là, du 1er juin, il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a des petits trous qui sont apparus? Est-ce que le terrain est toujours aussi vide? Est-ce que c'est tout plat? Est-ce qu'il y a peut-être des guêpes qui commencent à voler à rase-motte? Peut-être qu'un lézard s'est mis en plein milieu et il commence à chasser les premiers insectes qui apparaissent. Certaines puces qui sont là aussi. Bah, très rapidement, en fait, vous verrez, ça va bouger. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, dans l'émission, vous êtes plusieurs à écouter et chacun aura fait une action un petit peu différente, plus ou moins sablonneuse, plus ou moins arasée. Sur plusieurs territoires, que ce soit le Kos, que ce soit le Ségala. On va avoir en fait différentes apparitions d'espèces endémiques qui sont du territoire, mais qui avaient juste besoin en fait de ce tout petit territoire-là pour pouvoir se reproduire et ramener cette vie-là dont on a besoin dans votre jardin. La première réaction en fait que vous allez avoir, c'est quand vous allez arraser un terrain comme ça, quand vous allez mettre en place cette action, vous allez vous dire, mais c'est vrai que, en fait, cette espèce, je ne l'avais jamais vue. Alors qu'en fait, elle n'était pas loin, elle était à proximité de chez vous, elle n'était juste pas dans votre jardin. Elle a traversé la clôture, elle a vu qu'elle était bien accueillie chez vous, et elle va s'installer. En réalité, cette biodiversité, elle existait vraiment aux portes de son jardin. Il fallait juste lui laisser la place pour pouvoir venir et rester surtout. Et ça, c'est parce que vous avez créé un habitat favorable. Certaines abeilles terricoles aussi peuvent commencer à explorer le sol. Elles vont creuser, si le sol lui correspond. Elles vont commencer à creuser, créer des bourgades en profondeur. Elles vont rentrer dans le sol, écarter donc tout ce qui est terre meuble, sablonneuse. Et elles vont créer plusieurs chambres à l'intérieur. Et à chaque chambre, il va y avoir en fait une nouvelle larve qui va croître et repeupler ce territoire l'année prochaine. Les premières arrivées que vous verrez sûrement, ce sont les fourmis. Certaines fourmis thermophiles arrivent très rapidement. C'est les premières colonisatrices qui vont nettoyer au maximum ce territoire-là pour permettre en fait l'accueil du reste. En créant ces micro-galeries, les fourmis vont permettre justement à ces abeilles de pouvoir se développer beaucoup plus facilement à l'intérieur. Les lézards, comme je disais, vont arriver, se mettre au soleil, profiter de cette chaleur au maximum. Et ils vont aussi être des super chasseurs pour pouvoir éviter, toujours pareil, cette explosion d'une seule espèce qui peut devenir dérangeante. Il n'existe pas donc une seule bonne façon de faire. Il faut vraiment que vous le fassiez le mieux possible en étant le plus simple possible. On ne fait que gratter, on ne fait que rajouter un petit peu de sable, on essaye, on propose, mais quoi qu'il arrive, la nature ayant horreur du vide, vous aurez de la vie qui va s'y mettre à l'intérieur. Les espèces vont se sélectionner d'elles-mêmes les zones qui leur correspondent. Donc vous pouvez créer 2, 3, 4 habitats différents sur seulement 1, 2, 3, 4, 5 mètres carrés, suivant la surface que vous avez et l'envie que vous avez accordée à ces espèces thermophiles-là. Et vous verrez, ça va se sélectionner de par eux-mêmes et vous aurez la vie qui arrivera. La biodiversité ne dépend pas uniquement des fleurs, elle dépend aussi du sol, des maternités qu'on peut leur créer, des habitats qu'il va y avoir autour. Il lui faut de l'eau, de la nourriture et des endroits où crécher. Et là, sur cette sélection du mois de juin, c'est vraiment le côté désertique un petit peu, le côté micro-savane qu'on cherche pour amener en fait un nouveau lieu de vie après la micro-mare, après les sols, le tas de pierres, l'arbre mort. Voilà, ce sont toutes ces micro-habitats qui vont amener une part de vie dans votre jardin. Finalement, cette mission transforme aussi notre regard, parce que après, on ne regardera plus jamais pareil ce coin de terre nu. Une ancienne flaque asséchée, un bord de chemin, un vieux terrain sablonneux, une zone craquelée par la chaleur. On a l'impression que c'est du vide, mais en fait, si vous saurez observer, à chaque fois que vous allez partir en balade, vous verrez un petit trou, vous verrez un déplacement, vous verrez une colonne de fourmis. Tout ça, vous allez vous dire, mais ouais, en fait, chez moi, j'ai ça aussi. J'ai cette vie-là qui va arriver et qui mérite de vivre. Parce que je vis dans la nature vit aux portes de chez moi et c'est là où je vais pouvoir amener tous ces services-là. Donc, on observe ces micro-mondes, on réalise en fait que seulement quelques centimètres de sable chaud vont amener une nouvelle vie dans ce jardin-là et cette biodiversité, toutes ces espèces ont besoin en fait de nous aujourd'hui parce qu'on a tellement simplifié ces paysages-là qu'on les a fait disparaître. Mais rien de plus simple que d'offrir des micro-habitats partout, tout le temps, à toute échelle, aussi bien au niveau du particulier que du professionnel, de l'entreprise, de la collectivité. Voilà, prenez juste le temps d'aller vous balader un petit peu et regardez à chaque fois que vous avez un sol à raser, s'il n'y a pas de vie à l'intérieur, s'il n'y a pas un indice de présence. Vincent Albouy, qui est naturaliste, a écrit de super livres, les indices de présence, qui permettent de définir en fait, l'espèce vivante sur le territoire uniquement par la présence de ces indices-là. Une toile d'araignée va définir qu'il y a une araignée. Ce n'est pas parce qu'on aura vu la toile que l'araignée n'est pas là. Si on ne voit pas l'araignée, on ne peut pas se dire qu'elle est absente. Vu qu'il y a la toile d'araignée, donc on sait qu'il y a une vie qui est là. Derrière, on peut retrouver aussi des mues de certaines espèces. On va retrouver des traces de passage. On va retrouver des cocons. Voilà. Tout ça explique que la vie, en fait, elle se fait. Et cette micro-savane-là, après ce mois de mai qui a été quand même très aride, très ensoleillé, très sec, avec ces canicules-là, vont, je l'espère, permettre d'avoir ces espèces qui vont se développer rapidement et qu'on ait une vie qui continue quand même malgré cette sélection naturelle par la chaleur. Je vous laisse en musique. À très vite. Alors, ce qui est vraiment passionnant avec cette émission, c'est qu'elle ne fonctionne pas toute seule. Et l'émission, pareil, l'émission, ça fait maintenant 6 mois qu'on est ensemble et on a enchaîné des actions différentes pour arriver à créer une dynamique sur la totalité des espaces. Le tas de sable, la terre nue et la micro-savane deviennent encore plus puissants lorsqu'ils sont associés et sont relayés par d'autres aménagements de missions repeuplement, que ce soit la micro-mare, que ce soit l'arbre mort. Parce qu'en réalité, un écosystème ne fonctionne pas seul. Ce n'est pas on n'a pas créé une collection en fait, de 5 à 6 habitats différents. On a vraiment créé une symbiose d'action entre les territoires, où l'un va renforcer l'autre. Et elle se nourrit donc dans un endroit, se reproduit dans un autre, elle se cache ailleurs, elle chasse, elle va polliniser, elle va nettoyer sur la totalité des espaces en fait, ou sur certains espaces. Beaucoup d'espèces vont voyager d'un micro-habitat à un autre pour vivre simplement. C'est justement le principe de la biodiversité et c'est justement le principe de la diversité de créer un jardin vivant. On va prendre un exemple très concret, par exemple. Voilà, les abeilles terricoles, elles vont se mettre à creuser donc, dans cette zone sablonneuse. Elles vont aller chercher sur du pollen, sur une spirale aromatique ou sur la tonte alternée qu'on a fait le mois dernier. Elles vont récupérer un peu de chaleur quand il va se mettre à faire un peu frais sur le tas de pierres. Et elles vont aller chercher de l'eau dans la micromare pour pouvoir ravitailler en eau aussi et se nourrir en eau, s'abreuver. On peut prendre plein d'autres exemples comme ça. Là, en fait, on va commencer à comprendre quelque chose d'essentiel. Chaque aménagement, mission repeuplement, n'est pas isolé. Il fonctionne ensemble. Le tas de sable devient une maternité, la spirale aromatique devient une station nourricière. Le pierrier apporte de la chaleur et des cachettes. La haie sèche protège du vent et accueille les prédateurs naturels. Et l'ensemble commence alors à fonctionner comme un véritable écosystème miniature. Les guêpes fouisseuses. Certaines vont se mettre à creuser des galeries dans le sol chaud, dans le sable chaud. Mais elles vont aller chasser des proies dans les herbes hautes et autour de la haie sèche. Une ammophile, celle que je vous ai parlé il y a 15 jours là, de mon chantier sur Sonnac. Donc c'est une ammophile, c'est une guêpe noire avec l'abdomen rouge. Celle-là, en fait, va se mettre à capturer des chenilles de la prairie et elle va les enterrer dans la micro-savane. C'est un comportement qui est fascinant parce qu'il montre à quel point les habitats sont tous connectés. Elle aura besoin d'eau, elle va aller sur la micromare. Elle va aussi se permettre de chasser certains insectes dans la haie sèche. Si on prend l'exemple du lézard, le lézard, lui, va utiliser les pierres du pierrier pour se chauffer, la micro-savane pour chasser et de la haie sèche comme refuge. Voilà. Donc chacun va utiliser différentes strates de cet environnement qu'on a créé et vous aurez en fait votre petit monde dans votre jardin. Si on prend l'exemple des fourmis thermophiles, elles vont participer en fait à la circulation des graines, comme je vous espérais expliquer, la Messor barbarus va se balader avec ces graines-là et disperser en fait dans votre jardin. Les carabes, grands prédateurs nocturnes, vont circuler sur les zones humides, les bordures végétales et les terrains nus. Ce n'est pas juste un coin de biodiversité, c'est vraiment une mosaïque écologique. C'est un mini-monde que vous venez de créer et qui est sous vos pieds, sous vos yeux et dont vous êtes, entre guillemets, le petit dieu. Simplement, grâce à vous, vous avez créé tous ces espaces-là. Et c'est vous qui faites l'observation, en fait, de ce que vous avez créé. Un réseau de micro-habitats complémentaires, exactement comme dans la nature avant l'homme. Les paysages naturels étaient composés de zones humides, de terrains ouverts, de bois morts, de sols nus, de prairies, de zones pierreuses et de flaques temporaires. Et toute la biodiversité circulait entre ces milieux. Aujourd'hui, beaucoup de jardins sont devenus trop uniformes. Voilà, on passe à la tondeuse régulièrement, on a des tondeuses autonomes en plus, ce qui fait qu'en fait, on a un sol qui est stérile parce qu'aucun insecte ne peut se propager, ne peut se développer si tous les jours, il y a un broyeur qui passe au-dessus de la tête. Ce n'est plus possible. Donc Mission Repeuplement cherche justement à recréer ces contrastes, du chaud, du froid, du sec, de l'humide, du minéral, du végétal. Et parce que tous les contrastes augmentent, plus il y a de biodiversité, plus ça augmente. Et honnêtement, c'est probablement l'un des points les plus importants de toute la démarche. Un jardin vivant, ce n'est pas un jardin parfait, c'est un jardin qui est varié, qui est vivant. Un jardin qui accepte les reliefs, les différences et les accidents, et même les zones volontairement pauvres. Et finalement, avec quelques pierres, un peu de sable, une mare, un bois mort et quelques fleurs, on peut parfois reconstruire un petit morceau de paysage ancien directement chez soi. J'étais à Najac il y a un mois à peu près pour la fête de la nature et on m'a parlé de la trame verte et bleue. Renseignez-vous dessus, vous verrez. C'est exactement le principe de Mission Repeuplement d'Alofrelon. À très bientôt.
Papa, c'est vrai qu'on utilisait les essuie-glaces d'été à cause des insectes. Mais tu les as connus, toi, les insectes. Et tu crois que j'aurai la chance d'en voir moi aussi? Papa, on doit faire quoi pour qu'ils reviennent? Et comment on fait exactement? ça met combien de temps pour fonctionner? Et si mes compagnons m'aident, ça ira plus vite. Papa, on pourrait faire un endroit juste pour eux, un endroit trop beau. Tu crois qu'un jour il y en aura tellement qu'on ne saura plus où regarder ?